Bonjour tout le monde. Un très bon début de semaine à vous tous. J'espère que vous allez bien. On va parler en première heure d'émission de confinement et de déconfinement. Déconfiner pour apaiser, c'est un peu ce que regardent un peu partout les gouvernements. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle vendredi en Californie, entre autres. On a décidé de rouvrir les terrasses puis de permettre aux gens de toucher un semblant de vie normale. Évidemment, ça n'a pas été très long avant que bien des gens disent « ben voyons, et c'est beaucoup trop tôt pour le faire. » Chez nous aussi, alors que la semaine dernière, on s'en était même parlé vendredi, vous et moi, de ce réalisme obligatoire là, que François Legault nous disait de regarder bien droit dans les yeux. Là, il fallait faire face à la réalité. Il y avait encore trop d'hospitalisations, soins intensifs pour qu'on puisse déconfiner chez nous, peut-être dans certaines régions, mais sinon, nous avait dit le premier ministre, il faut prendre notre mal en patience. Là, aujourd'hui, enfin, c'est ce que la presse nous a annoncé, et puis même en fin de semaine, je pense que François Legault l'a dit sans le dire, c'est-à-dire que il peut y avoir des changements. On va voir ce qu'il va annoncer demain 5 heures. Je vous le dis souvent, hein, à 1 heure... Ils disent pas grand-chose. À 3 heures, ils en disent un peu plus. À 5 heures, c'est toujours une nouvelle qui a un impact réel. Alors, demain, si vous avez un commerce, ben peut-être qu'il y a de l'espoir qui pointe. Toujours pas grand-chose pour les restaurateurs, malheureusement. Vous avez entendu dans notre bulletin de nouvelles, ils sont nombreux à dire que là, après 5 mois de fermeture, là, c'est pire que pire. Il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? On va regarder ça ensemble. Je vais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous trouvez qu'il est temps de rouvrir les commerces? Est-ce que vous pensez effectivement que c'est pas tellement là qu'a lieu la contagion? On l'a beaucoup dit, hein? La contagion communautaire, c'est quand on se reçoit, quand on va chez l'un, chez l'autre, qu'on suit pas les consignes. Est-ce que vous pensez donc que rouvrir les commerces, ça pourrait être finalement une bonne idée et qu'il y aurait pas tellement de risques? Ou encore, vous trouvez que c'est beaucoup trop tôt et qu'on doit à tout prix conserver cette mesure, y compris le couvre-feu? Alors, je vais vous entendre là-dessus. Dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850. De l'extérieur, partout au Québec, vous nous écoutez sur Internet, vous nous appelez également au même numéro, le 1-866-790-9850. On va tout de suite parler au Dr Gaston Desserre. Il est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour, Dr Desserre.
Bonjour.
Bon lundi, ça repart avec, ouais, ça repart avec cette nouvelle qui donne de l'espoir à beaucoup de gens. Demain, François Legault pourrait annoncer donc des assouplissements pour les commerces. Comment vous voyez cet assouplissement potentiel, Dr Desserre?
Ben, écoutez, je pense que quand on regarde la situation épidémiologique au Québec, elle a changé pour plusieurs aspects. On a diminué là, considérablement le nombre de nouveaux cas par jour. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Ce qu'on a moins diminué, ce sont les hospitalisations, puis c'est pas surprenant parce qu'il y a toujours un délai de presque une couple de semaines entre la baisse du nombre de cas et la baisse des hospitalisations. Donc ça, ça reste actuellement quelque chose d'un peu douloureux, là, dans le sens où on a plusieurs centaines de personnes encore hospitalisées. Puis le but du délestage, pas du délestage, mais des mesures actuelles, c'est d'abord d'aider le système de santé à ne pas se ramasser dans une situation catastrophique. Alors, ça s'améliore du côté des hôpitaux, mais tranquillement, l'impact en termes de réduction du nombre d'hospitalisations, d'admission aux soins intensifs, je dirais, on va continuer à le voir augmenter là, au cours des prochains jours, augmenter, que la décroissance augmente. Donc, c'est sûr que quand on pense à l'ouverture des commerces, je pense que c'est sûr qu'actuellement, les gens peuvent dire, les commerces, il n'y en a presque pas d'ouverts, donc c'est certain que ça contribue peu à la transmission. Puis, je pense que la situation actuelle a fait que beaucoup de monde ont resserré les mesures pour le reste. Donc, par exemple, à l'école, les enfants, même à l'élémentaire, portent des masques. Je pense que l'idée, c'est de dire, il va falloir, à un moment donné, effectivement, ouvrir les commerces. Mais est-ce qu'on doit attendre un petit peu plus longtemps encore pour être... Parce que quand on est rendu à un faible niveau, si là, on maintient ce faible niveau de cas, bien évidemment, c'est plus facile si on a, par exemple, 500 cas par jour que si on en a 1000 par jour. Donc, c'est ça qui est, je dirais, la décision que le gouvernement doit prendre. Est-ce que compte tenu de ce qu'il va demander aux gens en termes de comportement dans les commerces, on va être capable d'aller de l'avant plus tôt ou on devrait attendre un petit peu plus tard. Je pense que ça, là, c'est là où je dirais M. Legault va apporter ses réponses là, d'ici une journée ou deux. Là.
Oui, mais si, par exemple, il annonçait demain, fin de journée, un allègement, un assouplissement dans ses règles pour les commerçants, évidemment, ce qu'on semble penser, là, selon les rumeurs, les centres commerciaux, ben, ça n'a pas l'air d'être clair, ça resterait à déterminer. Là, peut-être juste les boutiques qui ont une entrée qui donne sur l'extérieur pourraient accueillir les clients, comme on l'a déjà vu là, au cours des derniers mois. Mais sinon, si vous étiez, vous, là, dans le siège du conducteur, docteur Dessert, est-ce que vous ouvririez les portes de l'autobus pour faire entrer le monde dans un commerce ou non?
Ben, je suis pas dans ce siège-là, puis je vais pas essayer de prendre cette place-là. Je pense que c'est vraiment une place épouvantable.
Je veux juste savoir si c'est trop tôt d'après vous ou si c'est réaliste et tout à fait raisonnable que d'envisager ça.
Ben, moi, je pense que les deux options, c'est-à-dire de prolonger pendant encore une semaine ou deux la fermeture des commerces. En fait, je pense que si on peut baisser encore plus le nombre de cas par jour, ça va rendre la vie tellement plus facile. Mm-hmm. Mais évidemment, le coût d'attendre qu'on soit rendu à un très petit chiffre, ben c'est le coût dont vous parliez en termes de la difficulté énorme pour ces commerces-là de survivre parce que actuellement ils ont à peu près pas de rentrée de fonds et ils continuent à avoir des coûts. Donc c'est vraiment un équilibre qui est compliqué à optimiser là. Si on pense juste à l'aspect santé COVID, ben c'est clair que d'attendre un peu plus c'est mieux. Mais si on pense à la survie de ces entreprises-là, ouais. Là, il faut être capable de faire des compromis. Puis ça, moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé économique de ces entreprises-là, mais je peux facilement comprendre comment c'est très, très difficile actuellement.
Bien, selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, il y a plus de 10 % des PME québécoises qui pensent qu'elles vont faire faillite. Là. Ça, c'est une entreprise sur 10. C'est énorme, ben, docteur Vincent. Ouais.
C'est énorme. Ouais. Puis, c'est pour ça que, moi, évidemment, c'est la partie épidémiologie de la COVID, c'est facile. Hein? On sait évidemment pas tout le temps comment les choses vont aller, là, mais c'est facile à prédire. Si tu rouvres le robinet, ben ça va augmenter. Si tu le serres, ça va fermer, ça va diminuer. Mais la question, c'est le prix dans le reste du fonctionnement social qui, lui, est beaucoup moins facile à quantifier, mais tout à fait réel. Ouais. Et je pense que c'est ce qui rend les décisions. On choisit deux choses dans lesquelles les coûts négatifs sont très élevés, soit d'avoir plus de cas ou soit d'avoir une santé de ces entreprises-là qui finit par être tellement mauvaise qu'ils font faillite.
Oui. En même temps, vous parlez du robinet, là. Plus on l'ouvre, plus évidemment les cas coulent, puis on comprend l'image. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs robinets, parce que le robinet de l'école, il est ouvert, puis on remet jamais en question ça. En même temps, les magasins, les commerces, les salons de coiffure, on va parler là avec un coiffeur tout à l'heure. Est-ce qu'il y a plusieurs robinets là, en même temps? J'ai envie de dire, ils sont pas tous égaux. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Je trouve qu'il y a une grande contamination qui est issue des commerces, par exemple.
Bon, je pense que à la question de la proportion de toutes les contaminations qui viennent des commerces, c'est vrai là, que c'est pas clair. Ce qu'on a actuellement qui nous est rapporté, ce sont les contaminations qui vont être, j'allais dire, identifiées principalement par des éclosions chez les travailleurs des différents commerces. Faire l'identification que quelqu'un de la communauté a été infecté dans tel supermarché ou dans telle quincaillerie, c'est extrêmement difficile à faire. Donc, ça, c'est certain que ce qu'on peut voir, c'est ce qui se passe chez les travailleurs beaucoup plus que ce qui se passe dans le public. Mais il reste que actuellement, les milieux de travail sont évidemment à l'origine d'une bonne transmission, moins évidemment que ce que c'était au mois de décembre, mais ça continue à être un milieu où il se fait de la transmission. Donc, vous parlez des écoles, qu'on remet pas ça en question, je pense que Le gouvernement a énoncé trois priorités depuis le début: maintenir le système de santé, permettre aux enfants d'aller à l'école, puis permettre aux gens d'aller travailler. C'est sûr que là, les commerces, là, ça fait partie de la troisième priorité, puis je ne peux pas dire qu'ils sont nécessairement là, un à la suite de l'autre, là. Ils sont un peu sur le même niveau. Et dans les écoles, il y a quand même eu, là aussi, un tour de vis qui a été fait là, pour essayer de faire que les écoles soient moins un milieu où il se fait de la transmission que ce que c'était en 2020.
Mm-hmm.
Alors, puis les inconvénients de ce qui se passe à l'école, je pense qu'on peut les lire à chaque jour là, dans les différentes tribunes, dans les différents journaux, comment pour les enfants, puis les enseignants et tout ça, comment c'est très compliqué là, actuellement ce qu'ils vivent. Donc, de dire qu'on ne remet pas ça en question, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de remises en question qui se font au niveau de l'éducation, au niveau des coûts énormes en termes de perte d'apprentissage ou de difficultés d'apprentissage qui viennent avec toutes les mesures pour essayer de faire que l'école soit un milieu qui n'amplifie pas trop la transmission de la COVID.
Ce que je veux dire, c'est qu'on vit avec les risques d'avoir les écoles ouvertes. Est-ce qu'on pourrait vivre avec les risques de voir plus de gens retourner au travail dans les commerces, notamment dans les restaurants? Je veux dire, c'est une force vive, on n'arrête pas de le dire au cours des derniers mois. C'est des centaines de milliers d'emplois. C'est beaucoup d'entreprises. Regardez le chiffre de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, j'en reviens avec ça, mais une PME sur 10 qui va fermer au Québec, et François Legault et son ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui parle d'une reprise après sur les chapeaux de roue, il y aura du monde qui seront morts au combat. Là. Ça ne va pas être facile.
Vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. Puis je pense que c'est un drame là, qui est tout à fait sérieux. Là. Je pense qu'il y a différents types de commerce. Hein. Je pense que c'est certain que la catégorie restaurant pose des défis particuliers. Dans les commerces, encore une fois, si vous allez chercher quelque chose à la quincaillerie ou à la pharmacie ou au supermarché, même s'il y a pas mal de monde dans ces établissements-là, les contacts que les gens ont les uns avec les autres, ils sont très, très, très courts puis peu porteurs pour la transmission de la maladie. Les restaurants, c'est pas tellement le risque que le serveur transmette la maladie aux clients. C'est bien plus que les clients qui appartiennent pas aux mêmes bulles, soit aux mêmes bulles familiales, soit justement là longtemps assis là en face de l'autre à se parler.
Mais ça me paraissait tellement à la rigueur entre guillemets facile à contrôler.
Oui. À contrôler, ben je sais pas.
Ou en tout cas, encadrer après, si les gens veulent pas suivre. Je parle souvent à des restaurateurs, puis ils me disent que pour eux, c'est pas un problème que à partir du moment où on dit ben il y a pas de groupe, tu peux pas réserver en groupe de 20. Là, c'est clair pour tout le monde. Je sais pas, il y a quand même un cadre, il me semble, avec lequel on pourrait vivre un peu mieux.
Ben, je suis certain qu'il faut avoir un cadre qui...
Sinon, on va être fermé longtemps, docteur de Serre. Sinon, là, on va avoir cette conversation-là pendant des mois. Là.
Vous avez raison, puis je pense que ce qui peut nous donner espoir, c'est justement la décroissance quand même rapide là, qui s'est produite depuis le début janvier, qui fait que ce qui aurait été inimaginable il y a un mois redevient possible. Là. Alors moi, c'est sûr que j'allais dire, je trouve que d'avoir des mesures très serrées, là, oui, ça a un impact positif sur la COVID, mais ça a un impact tellement négatif sur les autres aspects que quel est le meilleur compromis, là, parce que dans le fond, c'est ce que vous soulevez,
oui,
comment
exact.
Réussir à faire qu'on puisse fonctionner avec un minimum. Puis moi, je reviens souvent à l'espèce de toute la discussion autour du fameux R, là, le taux de reproduction.
Oui.
Ben actuellement, là, on est en décroissance rapide. Et donc, le fameux R, là, il est bien en bas de 1. Si on arrive à un chiffre de nombre de cas par jour qui est, mettons là, qu'on serait à 500 par jour, puis que là, on ouvre justement les commerces d'une façon qui fasse que, bon, on n'est plus avec un R en bas de 1, mais on reste avec un R égal à 1. Donc, on a augmenté la transmission, hein? Mais on l'a augmenté, mais on va être avec un R égal à 1, ça veut dire que d'une journée à l'autre, là, on va rester avec à peu près 500 cas par jour. Ben ça, c'est certainement quelque chose que le système de santé est capable de tolérer. Évidemment, c'est pas une bonne idée qu'il y ait 500 personnes par jour qui soient malades, mais c'est pas une bonne idée non plus.
Mais on n'est pas là non plus.
Le travail, c'est ça.
On n'est pas
encore. Le travail soit arrêté. Là. Mmh. Alors, je pense que la grande difficulté, ça va être de s'assurer qu'avec les mesures qui sont mises en place au niveau de l'ouverture des commerces, notre fameux R remonte pas en haut d'un. S'il oscille autour de 1, on va être capable de vivre avec ça. Parce que, justement, le nombre de cas ne va pas se remettre à monter rapidement. À l'automne, c'est ça qui s'est produit. Là. Au mois d'octobre, là, on était à peu près à 1000 cas par jour, puis ça restait comme ça. Puis tout à coup, au mois de novembre, là, oups, là, ça a reparti. Puis ça a reparti quand même assez allègrement. Là, et donc, on s'est retrouvé à la fin du mois de décembre avec... il y a eu des journées, on a eu plus que 3000 cas dans une journée. Mm-hmm. C'est évidemment... là, c'est pas tenable.
Mais est-ce que vous êtes, en conclusion, en train de me dire il faudrait qu'on attende un petit peu encore avant que ça baisse pour en bas de 1000, certainement, avant de rouvrir quoi que ce soit?
Parce qu'il faut... moi, j'ai espoir qu'on arrive dans des chiffres comme ça assez rapidement. Hein? Je dirais, là, d'ici une semaine ou deux, je pense qu'on va être probablement en bas de 1000 cas par jour. Et donc, dans cette circonstance-là, encore une fois... 1000 cas par jour, c'est pas rien, là. C'est quand même pas mal de monde. Puis ce que ça veut dire, c'est que dès que ça se met à déraper un peu, ben tu pars de beaucoup de monde malade par jour, puis là, ça se multiplie vite. Si tu es à 500 cas par jour, si ça dérape, ben tu as plus de temps pour te reprendre.
Ouais.
Alors, c'est toujours ça quelle marge de manœuvre le gouvernement va vouloir se garder. Puis, encore une fois, je pense que la situation à laquelle personne veut se retrouver, dans laquelle personne veut se retrouver, c'est la situation où on serait obligé de dire « OK, on a ouvert, non, on referme, non, on roule. » Ça, je pense que c'est extrêmement pénible. Et donc, c'est pour ça que l'idée d'essayer de, je dirais, de prendre des décisions où on n'aura pas à reculer après 2-3 semaines parce qu'on va se rendre compte que ça...
Non, ça, vous avez raison. Ah oui, ça serait vraiment épouvantable. Là, si on le décide, va falloir vivre avec là, cette décision.
C'est ça. Puis le problème, c'est que chaque décision qui est prise, ça prend 3 semaines avant d'en voir l'impact.
Ouais.
Alors, c'est difficile. Tu n'es pas capable d'ajuster vite parce que le résultat se voit pas vite. Le résultat, si moi, aujourd'hui, on ferme telle activité, ben les gens qui ont été infectés à cette activité-là hier... Ben eux, avant qu'ils arrivent dans toutes les données, parce qu'ils vont avoir développé leurs symptômes, ils vont avoir été identifiés, ils vont avoir été hospitalisés, ils vont être décédés. Là, on en a pour, je dirais, là, des semaines avant d'avoir toute cette information-là. Donc, c'est ça qui fait que, j'allais dire, toute décision, quand tu vas voir l'impact, tu vas avoir déjà 3 semaines de retard.
Ben merci beaucoup, docteur Dessert.
Merci à vous.
Très intéressant. Merci bien. Docteur Carton Dessert est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique. Il est professeur en épidémiologie à l'Université Laval. Je pense qu'il l'a bien résumé. Quel est le meilleur compromis possible? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que François Legault aurait raison d'annoncer demain une réouverture de certains commerces dans certaines régions? Je pense qu'on connaît un peu, puisqu'on en parlait la semaine dernière, quelles seraient les régions là où... ça pourrait être réaliste et tout à fait logique de rouvrir. Celle, par exemple, du bas du fleuve, par exemple, on en a parlé. Bon, à Montréal, je pense pas qu'on puisse espérer grand-chose, sincèrement, mais nous verrons demain. Hein? On verra bien ce qui peut être décidé. Mais est-ce qu'on peut dire on rouvre les coiffeurs? Les salons de coiffure, on rouvre ça. Est-ce qu'il y a vraiment eu des cas d'éclosion assez nombreux pour qu'on paralyse toute une industrie? C'est ça, l'enjeu, c'est avec combien de cas on est capable de vivre normalement? C'est pas simple comme question, c'est vraiment pas simple. 514-790-9850. On va parler à Nicolas Duvernois tout de suite après la pause. Il est président de Pure Vodka, Romeo Gin, un entrepreneur. Il va nous dire comment ça se passe dans le milieu de la PME, entre autres. À tout de suite. Bonjour, Denis. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce potentielle? Évidemment, c'est demain, 5 heures. On en saura plus là, sur un potentiel assouplissement des mesures sanitaires, surtout pour permettre à des commerces de rouvrir. Vous en pensez quoi, vous, si c'est annoncé? Est-ce que vous estimez que c'est une bonne nouvelle?
Bonjour Isabelle. Moi, je suis en faveur de la réouverture des commerces aussitôt que possible. Puis, je mettrai en priorité les bibliothèques, les musées, les salons de coiffure, les gyms. C'est sûr que les restaurants, puis les bars, puis le reste, ça devrait attendre, surtout dans la grande région de Montréal, mais au moins, s'ils pouvaient nous donner un petit...
Les librairies, vous voulez dire, les bibliothèques sont ouvertes?
Les bibliothèques, ouais. Non, sont ouvertes seulement pour les étudiants. On n'a pas accès à la bibliothèque pour aller sur Internet, par exemple, ou aller travailler en ligne. Alors, moi, j'essaie d'y aller depuis des semaines, puis on nous refuse l'accès.
Oui? OK.
Moi, partout au Québec. J'ai même appelé la Ville de Montréal, puis c'est seulement pour les étudiants. Faut montrer une preuve d'identité, là, qu'on est bel et bien étudiant.
Donc, vous rouvrez au complet?
Le service, puis ben, tout ce qu'on peut, en fait. Mais faut être réaliste, connaissant le gouvernement, ça arrivera pas le 8 février, là, pour Montréal, en tout cas, mais... Moi, je suis en faveur d'une réouverture progressive le plus tôt possible.
D'accord.
Parce que là, après un an de pandémie, là, on est dû pour un petit break, comme on dit.
Mais oui, merci. Tout en respectant, bien sûr, le 2 mètres et le port du masque et toute autre mesure sanitaire qui nous dit de ne pas faire de gros parties en famille ou avec les amis. Ça, je pense que ça va rester. Merci, Denis. Guylaine, bonjour. Votre opinion là-dessus?
Mon opinion à moi, ça va être très court. L'équilibre dans tout. Alors, on rouvre partout, mais on met l'équilibre, on met des heures, on garde le couvre-feu, on fait tout ce que vous avez dit précédemment. Là.
Oui.
Donc, moi, je suis vraiment pour l'équilibre. Ça va faire du bien, ça va même nous donner des anticorps parce qu'on les perd. On peut frapper plus de maladies. Donc, à quelque part, mettez l'équilibre et tout va bien aller, j'en suis certaine.
Bon, ben merci, Guylaine. Pas sûr, c'est les anticorps, par exemple. Le fait de d'assouplir, ça n'a rien à voir avec les anticorps. Guy, bonjour. On vous écoute, Guy.
J'attendrai encore un peu, comme le docteur Dessert a dit, pour descendre les cas vraiment en bas du 1000. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, si on se fie à la dame, on s'en irait, là, vers, on rouvre tout, puis on attend l'immunité collective au détriment de quoi? Au détriment de beaucoup de morts, j'imagine, là, et beaucoup d'hospitalisations, puis tu fais même surcharger le système de la santé. Mais écoutez, tout le monde, il n'y a pas de... Si on écoute les représentants des bars, il n'y a pas de transmission. Des gyms, il n'y a pas de transmission. Là, les restaurants, il n'y a pas de transmission. Commerce de détail, il n'y a pas de transmission. Les centres d'achat, il n'y a pas de transmission. Mais là, il y a une transmission à quelque part avec les cas qu'on a tous les jours. Là.
Mm.
Ça n'a aucun sens. Et s'il n'y a pas de transmission nulle part, qu'on rouvre tout. Si on s'entend, si tout le monde dit qu'il n'y a pas de transmission, qu'on rouvre tout.
Ouais.
C'est tout. Ça va finir là. Il n'y a jamais de transmission nulle part.
Bon, en fait, c'est qu'il y en a, mais comme le disait tout à l'heure le docteur Dessert, quel est le compromis? Il y a relativement peu de transmission dans certains endroits par rapport à d'autres. Est-ce qu'on est capable de mettre un cadre pour encadrer ces risques-là? C'est ça un peu la mission et le défi.
Oui, je comprends. Mais comme a aussi mentionné le médecin, même s'il n'y a pas d'éclosion dans les restaurants, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transmission.
Mm-hmm.
La transmission, elle va se faire à la maison quand les gens reviennent du restaurant.
Oui.
Ouais, après
ça,
ils font des... C'est là qu'elle se passe.
Et c'est là où...
Dans le restaurant même.
Ouais. Mais pour nous permettre de vivre, puis de travailler, puis de... Ben, c'est là, oui, il va falloir... C'est-à-dire... accepter, là, je cherchais un autre mot qu'accepter, mais c'est ça, là, je voulais pas dire être docile, mais il va falloir quand même accepter le fait qu'on peut pas encore espérer se visiter en grand nombre la fin de semaine ou à des occasions. J'ai l'impression que cette mesure-là, elle n'est pas à la veille d'être levée. Là.
Le yo-yo, le docteur Dessert a été clair là-dessus.
Ouais.
C'est pire, jouer au yo-yo, avancer de 2 pas, on recule de 3. Puis s'il faut refermer dans un mois, parce que là, à matin, ça a été clair. Là, ils n'ont pas pris de décision encore pour la semaine de relâche.
Non, c'est sûr.
Bien, s'ils ne prennent pas de décision à l'avance, c'est sûr que le 1er avril, on ferme. Ça va être un méchant poisson d'avril, là. Les cas vont remonter, puis c'est pas ça qu'il faut. Moi, j'aime autant ouvrir en avril, faire comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, tu fermes 3 mois, vraiment 3 mois complets, puis regarder ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas de transmission, quasiment pas de cas. Puis quand ils ont un cas, ils ferment le comté au complet pour 5 jours. Le comté de Perth, en fin de semaine, en Australie, était fermé 5 jours, confinement complet. Un cas.
Ouais, c'est toujours délicat hein, de comparer dans des pays comme ça quand on ne sait pas non plus de quelle façon ils calculent le nombre de cas et tout ça. Merci, ouais. Merci Guy, merci beaucoup. Très intéressant. On va aller à la pause ici et on va bien sûr parler avec vous tout de suite après. Bon, on aura Nicolas Duvernois qui va nous dire comment il voit ça, lui, à tout de suite. Vraiment loin de faire l'unanimité, hein, cette réouverture potentielle des commerces, entre autres, ou de certains autres pans de l'industrie. Il y a Fabien qui m'écrit « Hey, 100$ que 2 semaines après la relâche, on a complètement perdu le contrôle. » Donc, pour lui, c'est clair, aucune réouverture. Les écoles restent ouvertes, mais sinon, on va se retrouver au même point dans 3 semaines. Avec nous, Nicolas Duvernois, pardon, il est président de Pure Vodka et Romeo Gin. Bonjour, Nicolas.
Salut Isabelle, comment ça va?
Ça va. Comme entrepreneur, comment tu vois les choses? Parce qu'on disait tout à l'heure, je parlais de cette statistique là qui vient de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, donc qui représente les PME au Québec, et qui nous dit qu'il y en a environ 11% qui estiment avoir à faire faillite cette année. C'est important, là. C'est une donnée qu'il faut tenir en compte.
Oui, mais effectivement, je crois que tu sais, je suis un entrepreneur, mais je suis aussi un papa, je suis un collègue, je suis un ami, je suis un fils. Il faut qu'on arrête de regarder chacun ce problème-là selon notre vision personnelle, puis regarder beaucoup plus l'ensemble des conséquences de tout ce qui se passe. Certes, il y a un bilan extrêmement lourd d'un point de vue santé physique, que j'appellerais, pour cette pandémie, mais il y a aussi un bilan extrêmement lourd pour la santé mentale et sur la vitalité de l'économie, de la société. Et ça, l'économie de la société en général, ben ça touche tout le monde, ça touche pas juste une personne. Donc, une PME qui ferme, ben c'est 10-15 employés qui perdent leurs emplois. Ça, c'est des familles, c'est des papas, c'est des mamans qui sont stressés parce qu'ils ont quand même des enfants à nourrir, eux-mêmes à nourrir. Il faut habiller les enfants, les envoyer à l'école. Fait que bref, je trouve que le gouvernement se retrouve vraiment avec une patate chaude entre les mains. Et ça, depuis le début. Parce que comment faire en sorte de prendre toujours une décision pour limiter au maximum le risque de la contamination ou de la propagation, puis en même temps que ces mesures prises-là aient un minimum d'impact sur la société, bonne chance pour avoir la bonne réponse.
Mais tu serais plutôt pour une réouverture?
Moi, je serais pour une réouverture, mais vraiment d'une manière différente, où les lois, en guillemets, là, sont claires, nettes et précises, et qu'on ne se retrouve pas dans un flou artistique. Je crois que les personnes gueulent beaucoup aussi, et moi le premier, parce que des fois, tu vois, à faire ma prix, j'ai-tu le droit d'acheter un pudding ou j'ai pas le droit d'acheter un pudding? J'ai-tu le droit d'acheter des piles 2A? Oui, mais pas des piles 3A. Tu sais, à un moment donné, il faut être aussi contraignant quand on est un leader, et je crois qu'il faille plus de clarté. Comme ça, le monde vont rentrer dans le jeu. Là. Il y a personne qui ne veut pas se sortir de cette situation-là, mais je crois qu'il y a beaucoup de nonchalance ces temps-ci, parce que ben, ça fait bientôt un an qu'on est à droite, on est à gauche, on ferme pas, peut-être pas, c'est-tu dangereux, c'est-tu pas dangereux, les écoles sont ouvertes, les écoles sont fermées, mais je préfère regarder ça d'un point de vue beaucoup plus macro, et je me dis que les répercussions d'une crise économique seront encore plus lourdes qu'une pandémie. Ouais. Parce que quand on parle de crise économique, il y a des pertes d'emplois, des fermetures de milliers, des milliers de commerces, de restaurants, donc des pertes d'emplois massives, des pertes de revenus. Et ça amène quoi? Quand on regarde les conséquences d'une crise économique, malheureusement au Québec, on le sait tous, on a un grave problème du taux de suicide, ça augmente le taux de suicide, il y a un découragement collectif, il y a des tensions sociales, ça augmente les inégalités, il y a le décrochage scolaire. Bref, tu vois à quel point c'est complexe comme situation.
Et petit à petit, je pense aussi ce qu'il faut rajouter à cette liste que tu viens de faire, Nicolas, c'est la banalisation des risques associés à la COVID. Puis la semaine dernière, il est sorti un sondage qui a été fait justement par l'Institut national de santé publique du Québec, qui disait qu'ils ont fait un sondage sur 6000 personnes. Il y avait plus de 41% des Québécois qui disent qu'ils ont ressenti des symptômes qui ressemblaient à ceux de la COVID, mais ou qui avaient côtoyé une personne infectée au cours du dernier mois, qui n'ont pas jugé bon d'aller se faire tester. Fait qu'imagine, plus de 40% des gens qui ont côtoyé une personne qui a été infectée ou qui eux-mêmes avaient des symptômes, ont dit « Oh, ils m'ont pas allé me faire tester d'un coup qu'ils me mettent en quarantaine. » Là, c'est rendu que tu dis « Ouf, on réveillera pas le chat qui dort, tu comprends? » Et là, il y a des... T'imagines ce que ça veut dire là, si 40% des gens qui sont peut-être infectés sans le savoir ne sont pas dépistés puis continuent de se promener. C'est pour ça que moi, je suis ambivalente par rapport à tout ça et... Et je me dis, est-ce que c'est bien le moment maintenant? Est-ce qu'on n'aurait pas avantage à peut-être à toffer encore quelques jours? Tu comprends? C'est ça qui m'inquiète. C'est la banalisation. Une fois les magasins rouverts, les restos rouverts, si tout le monde s'en fout, qu'est-ce qui va nous arriver?
Mais je te dirais que ça arrive quand on éternise en situation, en guillemets, une situation. Tu sais, pas cette année, mais l'année dernière, je me rappelle, j'ai été à la Maison Hantée à Outremont. Ils font ça bien, là, chaque année, avec ma fille. La première fois, on l'a fait 7 fois, hein, c'est commencé. La première fois qu'on l'a fait, elle était terrorisée. À la 7e fois, elle riait du monstre qui l'avait terrorisée il y a six tours. Donc là, ça fait un an qu'on parle à quel point c'est dangereux. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas impliqués là dans cette réalité collective parce qu'ils voient que finalement dans les statistiques c'est beaucoup des personnes disons à 75 ans et plus qui sont à risque, donc quelqu'un de 42 ans il se dit ben pourquoi moi je fais attention, les écoles sont ouvertes, les enfants se mélangent à droite et à gauche, donc c'est sûr que c'est ultra comme complexe, il y a un maelstrom sociétal qui se passe en ce moment où ben on sait plus quoi penser. En plus, avec tous ceux qui disent qu'il y a des pandémies, il n'y a pas de pandémie, il faut que tu portes un masque, il faut que tu portes pas porter de masque.
Ouais, ben là, ceux qui se demandent s'il y a une pandémie, ceux-là.
Non, je le sais, mais.
On voudrait pas qu'ils retardent le groupe trop longtemps, là.
Oui, mais c'est une réalité qu'il faut prendre, qu'il faut quand même prendre. Tu sais, au début, là, rappelle-toi l'élection de Trump, on disait que c'était un fou, puis à la fin, ben, il y a 80 millions de personnes qui le suivent. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut faire attention quand même à être un peu plus clair, un peu plus transparent. Mais définitivement, les commerçants, les restaurateurs sont à bout de souffle et il faut leur permettre de recommencer à avoir
comment
de
l'oxygène. Comment tu ferais ça, Nicolas, toi? Comment tu... Bon, est-ce que tu irais sur...
Avec des heures coupées, je crois que c'est une manière d'éviter, de maximiser, entre guillemets, là... les chances que soit un employé, soit le commerçant se fasse contaminer. Je crois avec des règles claires, nettes et précises, encore une fois, je crois qu'il faut respecter quand il dit 5
dans un commerce. Là, t'en demandes beaucoup, peut-être, là, des règles nettes et claires et précises. Là.
Ben oui, mais écoute, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Essaye d'élever un enfant sans note. Bon, ben, restriction, ben là, il faut donner des restrictions, puis il faut les suivre. Parce que là, tu vas dans des commerces, à la porte, il y a une affiche écrit 5 personnes maximum. Tu rentres, puis souvent, ben, il y en a 10. Ben non, ouais. c'est 5, tu sais.
Ouais,
c'est comme ça qu'on va s'aider, parce qu'on veut tous que ça réouvre. Mais tu vois, tellement hâte d'aller manger dans un restaurant, là.
C'est, ah oui. Ouais. Il y a les restaurants, puis il y a tout le reste, tous les autres commerces, là. Je pense entre autres aux coiffeurs. Puis si tu veux, va se joindre à notre discussion. Nicolas Stéphane Roy, il est président de l'association Coiffure Québec. Bonjour Stéphane.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Puis vous, comment ça va dans votre industrie là? Parce que là, vous êtes fermé, puis vous dites, mon Dieu, quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau rouvrir nos salons, hein?
Ben, c'est sûr qu'on a hâte de savoir. Puis aussi, c'est que le problème, c'est que c'est très divisé dans nos membres. Il y en a qui sont pour, puis il y en a qui sont contre.
Mm-hmm.
Puis c'est comprenable parce que c'est pas facile. Puis on n'a pas toutes les informations. Puis, on est des citoyens avant tout. Puis, il y a des sacrifices qui sont faits de nous. Mais si on sent qu'on fait des sacrifices, parce qu'on pense pas qu'on est la cause. Il n'y a pas eu des salons de coiffure qui a eu des éclosions. On n'est pas vraiment la cause, mais on était prêts à faire le sacrifice pour le bien-être de tous.
Ouais.
Si les hôpitaux sont pleins, puis que nous, on dit, ben non, nous, on veut continuer de travailler... pas convaincu que c'est bien perçu puis que c'est la bonne décision. Sauf que si on fait des sacrifices, mais que c'est toujours nous qui fait les sacrifices, puis qu'il y a des gens qui ont la permission d'aller en voyage, il y a eu un bout de temps que les restaurants étaient ouverts dans certaines villes, il y a des écoles de coiffure publique qu'on me dit que eux ils ont eu la permission du gouvernement de faire de la coiffure avec du public. On enquête là-dessus présentement.
En région, c'est ça, vous savez pas à quel endroit?
Ben, on me dit, dans le bout du lac Saint-Jean, là, on est en train d'enquêter, je veux pas...
OK, d'accord.
Mais c'est sûr que ça...
En même temps, Stéphane...
Ça part sur les réseaux sociaux, tout ça,
ouais.
Puis ça frustre les gens, tu sais, qui font le sacrifice. À un moment donné, il y a un impact financier pour ces gens-là, que leur commerce est fermé. Il y a un impact financier, puis ça touche ces gens-là. Là. Il y a des décisions, il y a des salons de coiffure qui vont fermer, il y a des gens qui vont perdre leurs emplois, tandis qu'il y en a d'autres qui ont aucun impact financier, puis qui respectent pas nécessairement les règles. C'est un petit peu ça qui est frustrant pour le monde, je crois.
Ouais, tout à fait. Je pense que si on se fie à ce que disait la presse, le journal La Presse, au sujet là, du scénario qui est en ce moment sur la table du gouvernement, vous seriez parmi ceux qui pourraient rouvrir. Là.
ceux qui ne pourraient pas rouvrir, ceux qui resteraient fermés, ça serait les salles à manger des restaurants, des bars, les salles de spectacle, les cinémas, les théâtres. On ne sait pas trop pour les centres commerciaux, mais ce que je comprends, c'est que les commerces, probablement ceux qui ont une porte qui donne sur l'extérieur dans les centres commerciaux, pourraient également être ouverts aux clients. Bref, évidemment, on va en savoir beaucoup plus demain, 5 heures de la bouche même du premier ministre. Mais une chose est sûre, c'est que si vous aviez le OK pour rouvrir, ça serait bien. Là. Ça vous donnerait un petit peu d'air, Stéphane. Oui. Là. Ouais.
C'est sûr. Nous, en coiffure, on a toujours des coiffeurs qui coupent des cheveux à des gens qui ont des postes ou qui ont plus d'informations. Puis à chaque fois, on a eu des informations qui ont glissé avant. Puis on nous dit que sûrement que les salons de coiffure vont être parmi ceux parmi les commerces qui vont réouvrir. Puis il y a une partie de tous nos membres qui sont très heureux de ça parce qu'on considère pas qu'on est la cause, mais on faisait partie de la solution parce que c'est moi je pense que le gouvernement Legault avait pas le choix, il voulait freiner la circulation.
Ouais.
Puis on fait partie des sacrifiés. Sauf qu'on espère qu'on va avoir de l'aide aussi, parce que c'est beau se sacrifier, mais ça prend aussi, je crois, de l'aide. Puis aussi, il y en a parmi nos membres qui se disent, ben, peut-être qu'on devrait réouvrir 2 semaines plus tard pour pas refermer à nouveau au bout de 2-3 semaines. Si les gens respectent pas les règles, puis ça fait en sorte que dans 2-3 semaines, on se retrouve dans la même situation. C'est difficile pour des commerces, ouvrir, fermer.
Mm-hmm.
Puis l'impact d'un coiffeur qui faisait en bas de 500 $ avant la COVID est moindre, parce que là, présentement, il y a un aide de 500 $ mais il y a des coiffeurs et des coiffeuses qui avaient un salaire plus élevé que eux, l'impact, faire uniquement 500 $ par semaine, ça les met vraiment en difficulté.
Ah ouais, comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Ben oui, ça te baisse la qualité de vie, c'est clair. Ouais, ouais.
C'est ça. Puis, tant qu'à vous avoir aussi, merci de nous permettre de parler aux Québécois, je voudrais aussi dire que si jamais M. Legault rouvre les salons de coiffure mardi, ben demain soir, qu'il va avoir une logistique assez spéciale pour les salons de coiffure, pour la reprise des rendez-vous. La plupart des salons vont pas pouvoir répondre au téléphone mardi soir après le oui de M. Legault.
C'est
sûr. Ils vont tout appeler les clients qui ont déjà un rendez-vous entre le 24 décembre et mardi.
Oh, mon
la
Dieu,
plupart
ouais.
vont
ouais.
faire ça.
Ouais, ouais.
Puis après, il y en a certains qui ont des listes d'attente. Après, en deuxième lieu, ils vont appeler les listes d'attente. Puis il y a des salons de coiffure que dès samedi ou lundi ou mardi prochain, là, ils vont réouvrir les lignes pour prendre les rendez-vous des gens. Parce qu'on l'a vécu au mois de juin passé, tout ça, puis ça a fait une grosse vague.
Ouais,
là,
ça.
La vague va être plus petite parce que on n'a pas été fermé 3 mois et c'est aussi des mois plus tranquilles.
Merci beaucoup, Stéphane. Je pense que de toute façon, ça rentrera pas. S'il l'annonce demain 5 heures, ça va pas entrer en vigueur tout de suite. Là. Ça va prendre quelques jours pour donner l'occasion à tout le monde de rouvrir, de rappeler les gens qui travaillent. Ça va être quelque chose aussi, rappeler le monde. Là. Revérifier que tout est les caisses, tout ça, là, c'est toute une logistique incroyable. Merci beaucoup, Stéphane Roy, puis bonne chance à toute l'industrie, là, entre autres de la coiffure. Là-dedans, on pourrait mettre l'esthétique également. Il y a
exact.
Beaucoup de gens là, qui disent, moi, j'ai tellement hâte de rouvrir mon commerce. On va s'arrêter ici, très courte pause. On poursuit avec Nicolas Duvernois et vos commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est trop tôt ou au contraire, le bon moment, il est à peu près temps pour rouvrir les commerces? J'ai envie d'avoir votre opinion là-dessus, Emmanuel. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute?
Oui, moi, je suis quand même mitigé là-dessus. C'est sûr que quand on voit les statistiques qui disent que 41% des gens qui ont des symptômes de la COVID continuent à les travailler, ils ne vont pas tester, je serais porté à ne pas rouvrir le tout pour risque de propagation avec tout ce qui se passe. Est-ce qu'on peut avoir confiance aux gens qui ne seront pas testés à rouvrir et aller dans les commerces?
Ouais, donc vous avez des craintes par rapport à tout ça, hein? Cette banalisation là, dont on parlait tout à l'heure des risques associés à la COVID. C'est peut-être des gens qui ne l'ont pas, mais qui ont eu, ils ne se sont pas sentis bien. Mais aussi, l'autre partie du sondage, hein, ça disait aussi que des gens qui ont été au contact, là, qui ont côtoyé une personne infectée, ça, ce bout-là de la donnée est inquiétant. Parce qu'à la rigueur, tu peux pas te sentir bien pendant 24 heures, ça veut pas dire que tu as la COVID. C'est sûr que si, normalement, tu regardes la liste des symptômes, puis si c'est cohérent, bien, il vaudrait mieux aller se faire tester plutôt que de risquer de contaminer d'autres gens. Mais ceux qui ont été au contact d'une personne infectée, et qu'ils savaient. Là. J'ai des gens qui me l'écrivent, là, qui savaient. Certaines personnes sont au courant de personnes qui côtoient des gens infectés COVID. Là, c'est drôlement plus inquiétant là, de voir cette banalisation.
Exactement. Ça m'est arrivé aussi à l'épicerie d'avoir une personne derrière moi qui disait qu'elle parlait au téléphone comme quoi qu'elle était allée chez une de ses amies en fin de semaine, puis elle était testée positive, puis elle est en attente de son résultat, puis elle s'en va à l'épicerie.
Oh mon Dieu. Ouais.
C'est du manque de respect.
Mais je ne sais plus ce qu'on peut dire à ces gens-là, Emmanuel. Il me semble qu'on a tout dit, non?
Exactement. Et on n'y a plus grand-chose à faire.
Oui, c'est ça. C'est décourageant. Ouais. En plus, on a parlé avec mon équipe ce matin. Tu te fais engueuler quand tu dis à quelqu'un, écoutez, s'il vous plaît, vous êtes trop proche. Tu sais, l'expression « t'es dans ma bulle » n'a jamais été aussi de circonstances, voilà, pardon. Puis finalement, ben, les gens, ils t'engueulent. Ouais, va donc! C'est pas drôle. Bon, on a Maria qui est au bout du fil. Bonjour, Maria.
Oui, bonjour Isabelle. Bon, je suis contente de donner mon opinion. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on réouvre les commerces de part et d'autre parce que qu'est-ce qui va arriver là? On va avoir une troisième vague. Là, on va tout reconfiner le monde. Ça tient pas de bout. Alors, je vais vous dire la vérité. La décision reste au premier ministre François Legault. Puis je crois qu'il va prendre la bonne décision. Demain soir à 5 heures.
Merci. Merci beaucoup. Marc-André, bonjour. Votre opinion là-dessus?
Bien, on ne devrait pas ouvrir tout de suite parce qu'avec l'estrette et tout, on devrait attendre qu'il fasse un petit peu plus chaud. Le monde va rentrer dans le commerce, ça va se coller. Tout le monde dit que c'est une grippe, mais ça va se partager comme une grippe. Si on rouvre tout, là, tout le monde va se le remettre puis on va repartir encore à tout fermer au début de l'été.
OK, donc vous rouvrez pas tout de suite. Merci, merci bien. Nicolas Duvernois, Nicolas, peut-être en conclusion de tout ça, tu vois, c'est loin de faire l'unanimité, puis je lis les commentaires des gens là, qui m'écrivent à isabelle@985fm.ca, puis je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens, oui, qui sont d'accord avec certains assouplissements, comme l'écrit Jacinthe, mais elle dit, il faut quand même que certains milieux de travail soient mieux encadrés, puis elle fait référence, entre autres, aux chantiers de construction. Elle dit ils sont ouverts, puis pourtant, il y a des problèmes. Là. Donc, c'est vrai que c'est pas simple, hein, Nicolas?
Ben non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça soit strict et clair, parce que on voit que ça va de tout bord, de tout côté, et puis ben ça arrive quand on n'a pas un environnement bien contrôlé, puis on sait ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et un peu comme, prenons l'exemple de Trudeau et les voyages. Ça doit faire 2 mois que tout le monde est en train de réfléchir, ça dit tout et son contraire. Mais c'est sûr que c'est pas simple et moi-même, je suis mélangée dans le fait que, bien entendu, je veux ne prendre aucun risque, mais absolument aucun risque pour la santé, autant pour ma famille que pour celle des autres. Mais d'un autre côté, il faut quand même penser à des dizaines, des centaines de milliers de personnes, que ce soit des entrepreneurs commerçants ou que ce soit leurs employés, qui se retrouvent dans une insécurité la plus complète, qui sont à 2 doigts de tout perdre, que ce soit tout ce qu'ils ont mis pour leur commerce ou que ce soit leur emploi. Ouais. Et puis, je trouve que ça, il va avoir un gros, gros prix à payer aussi si on ne fait rien.
Merci beaucoup, Nicolas Duvernois, de prendre le temps toujours puis de nous donner un peu ton opinion là-dessus parce qu'effectivement, comme entrepreneur et comme tu dis aussi citoyen, il faut penser à toute la société, pas revoir ça seulement qu'avec notre vision, notre lorgnette à nous, il faut vraiment s'ouvrir. On va voir ce que va en dire le gouvernement demain. Là, de toute façon, on verra bien. On s'arrête ici. Nouvelle, on va parler de voyage après la pause.